15. Ils l'embrassèrent, et Othée lui lécha le visage avant de partir.
« Sois prudent, Jake, » lui dit Susanna. « Reviens-moi en un seul morceau, tu m'entends ?» Edith aurait dit la même chose.
« Je sais, »
fit Jake en l'embrassant une nouvelle fois. Il souriait car il entendait la voix d'Eddie lui dire de faire gaffe à ses fesses, qu'il avait déjà une grosse fissure, et se remit à pleurer pour la même raison. Susanna le tint contre elle quelques secondes encore, puis elle le laissa aller et se retourna vers son mari, tellement immobile et froid dans le lit du surveillant. Jack comprit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à Jack Chambers ou au chagrin de Jack Chambers dans l'immédiat. Le sien était trop immense. 16. À la porte des appartements, Dinky patientait. Roland faisait un petit tour avec Ted et ils étaient déjà au bout du couloir absorbés dans leur conversation. Jake supposa qu'il reprendrait la direction de l'allée où Chimmy, avec un peu d'aide des autres, essaierait une nouvelle fois de les envoyer côté Amérique. Ce qui lui rappela quelque chose.
Les trains de la ligne D, ils vont au sud ou vers ce qui est censé être le sud, pas vrai?
Plus ou moins, partenaire, acquiesça Dinky. Certaines de ces machines ont des noms comme « pluie délicieuse » ou « esprit du pays de la neige », mais ils ont tous des lettres et des numéros.
« Ce dé, c'est pour dans de l'eau ?»
Dinky le regarda en fronçant les sourcils, perplexe.
« Dans de l'eau? Qu'est-ce que c'est que ce foutu truc ?»
Jake secoua la tête. Il n'avait aucune envie de révéler à Dinky où il avait entendu ce mot.
« Eh bien, je n'en sais rien. » « Enfin, je n'en suis pas sûr, » poursuivit Dinky tandis qu'il se remettait en marche. « Mais j'ai toujours pensé que ce dé signifiait Discordia, parce que c'est là que tous les trains sont censés atterrir, tu vois, quelque part au fin fond des plus mauvaises des maltaires de l'univers. »
Jake opina. Ça se tenait. Dé pour Discordia, à la rigueur.
« Tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi un dent de l'eau ?»
Rien qu'un mot que j'ai vu écrit sur le mur à la gare de Tonfoudre, ça ne signifie sans doute rien du tout.
17. À l'extérieur du dortoir Corbett, une délégation de briseurs attendait. Ils avaient l'air maussades et apeurés.
Dès pour dents de l'eau, se dit Jake, dès pour Discordia et dès pour désespoir aussi.
Roland se planta face à eux, les bras croisés sur la poitrine.
« Qui parle en votre nom ? » demanda-t-il. « Si l'un d'entre vous est votre porte-parole, qu'il s'avance, car notre temps ici s'achève. »
Un monsieur à cheveux gris, encore un type avec une tête de banquier, pour tout dire, fit un pas en avant. Il portait un pantalon de costume gris, une chemise blanche ouverte au col et un gilet gris, ouvert lui aussi. Le gilet poché. L'homme qui le portait également.
« Vous nous avez pris notre vie, » dit-il.
Il avait prononcé ces mots avec une sorte de satisfaction morose, comme s'il avait toujours su que les choses se termineraient ainsi, ou que la fin ressemblerait à ça.
« La vie que nous connaissions. Qu'allez-vous donner en échange, monsieur Gilead ?»
Un murmure d'approbation accueillit cette question. Jake Chambers l'entendit et ressentit une colère telle qu'il n'en avait jamais ressentie de toute sa vie. Sa main, comme mue par une volonté propre, se posa sur la mitraillette Coyote, la caressa et trouva dans ce contact une sorte de réconfort glacé. Voir un instant de répit dans son chagrin. Et Roland le sentit car il tendit la main dans son dos et la posa sur celle de Jake. Il la serra jusqu'à ce que le jeune garçon lâche son arme.
« Je vais vous dire ce que je vous donne en échange, puisque vous le demandez. J'ai voulu que cet endroit où vous vous êtes nourri de cerveaux d'enfants sans défense, dans le but de détruire l'univers, soit rayé de la carte par le feu jusqu'à la dernière brindille. J'avais l'intention de faire exploser certaines boules volantes en notre possession, afin de réduire en miettes ce qui ne voudrait pas brûler. J'avais l'intention de vous indiquer la direction du fleuve Wai et des vertes Kalas qui s'étendent au-delà et de vous y envoyer avec cette malédiction que m'a apprise mon père. Que vos jours soient longs, mais pas en bonne santé. »
Un murmure plein de ressentiment monta, mais pas un regard n'osa chercher celui de Roland. L'homme qui avait accepté de parler en leur nom, et même dans l'état de fureur où il se trouvait, Jack dut bien lui reconnaître du courage, vacillait sur ses pieds comme s'il était sur le point de s'évanouir.
« Les Kalas se trouvent toujours dans cette direction, » ajouta Roland en tendant la main. « Si vous y allez, certains d'entre vous, beaucoup peut-être, » mourront sans doute en chemin, car ils se trouvent sur cette route des animaux qui ont faim, et de l'eau bien souvent empoisonnée. Je ne doute pas que les Folken de la Kala sauront qui vous êtes et ce que vous avez fait, même si vous leur mentez, car ils ont parmi eux des manies, et les manies voient loin. Cependant, vous y trouverez peut-être le pardon au lieu de la mort, car dans des cœurs comme ceux de ces gens, la capacité à pardonner est bien plus grande que le sera jamais la vôtre à comprendre, ou la mienne d'ailleurs. Je ne doute pas non plus qu'ils vous mettront au labeur et que le reste de votre existence ne se passera pas dans le confort que vous avez connu, mais dans l'effort et la sueur. Pourtant, je vous exhorte à y aller, ne serait-ce que pour trouver la rédemption après ce que vous avez fait.
Nous ne savions pas ce que nous faisions, espèce d'homme chariou!
Hurla furieusement une femme à l'arrière.
Si, vous le saviez!
Brailla Jack en réponse, si fort qu'il vit des points noirs consteller soudain son champ de vision et que la main de Roland se plaqua instantanément sur la sienne pour la retenir.
Aurait-il vraiment décimé la foule avec sa coyote? Ajoutant encore à l'odeur de mort qui baignait ce terrible endroit, il n'en savait rien. Ce qu'en revanche il savait, c'est qu'un pistolero pouvait perdre le contrôle de ses mains sitôt qu'il y plaçait une arme.
« Comment pouvez-vous prétendre le contraire? Vous saviez !»«
Voici ce que je donnerais, si cela vous sied, » reprit Roland. Mes amis et moi, ceux d'entre nous qui ont survécu, même si je sais que celui qui gît mort là-bas aurait été d'accord, et c'est pourquoi je parle aussi en son nom. Nous laisserons cet endroit dans l'état où il est. Vous avez assez de nourriture pour tenir jusqu'à la fin de vos jours, je n'en doute pas, et des robots pour la préparer, faire votre lessive et vous torcher le cul, si c'est ce dont vous croyez avoir besoin. Si vous préférez le purgatoire à la rédemption, alors restez ici. Si j'étais vous, je ferais le voyage. Je suivrais les voies ferrées, je sortirais des ténèbres. Dites-leur ce que vous avez fait avant qu'ils le découvrent. Mettez-vous à genoux, tête nue, et implorez leur pardon.
Jamais !
Cria catégoriquement quelqu'un, mais Jake eut l'impression que certains avaient l'air moins déterminés.
« Comme vous voudrez. Ce sera mon dernier mot en la matière. Et le prochain qui m'adressera la parole pourrait bien se retrouver silencieux à jamais, car une amie à moi est en train de préparer un autre de mes amis, son propre mari, pour qu'il repose en terre. Et je suis rempli de fureur et de chagrin. Vous désirez parler? Oserez-vous provoquer ma fureur? Si tel est le cas, voici ce qui vous attend. »
Il dégaina son arme et la posa en appui sur le creux de son épaule. Jake s'avança à ses côtés, brandissant enfin sa propre arme. Il y eut un moment de silence, puis l'homme qui avait parlé se retourna.
« Ne nous tuez pas, monsieur, vous en avez fait assez !»
dit quelqu'un avec amertume. Roland ne répondit pas. et la foule commença à se disperser. Certains s'éloignèrent en courant, ce qui fit tache d'huile. Ils s'enfuirent en silence, sauf quelques-uns qui sanglotaient, et bientôt les ténèbres les eurent avalés.
« Waouh !»
fit Dinky d'une voix douce, empreinte de respect.
« Relente !» dit Ted. « Ce n'était pas entièrement leur faute. Je croyais vous avoir expliqué ça, mais j'imagine que je n'ai pas fait du bon travail. »
Roland rengaina son pistolet.
« Vous avez fait de l'excellent travail. C'est pourquoi ils sont toujours en vie. »
Ils avaient de nouveau tout le côté de la maison d'Amelie pour eux seuls. Roland vit Chimmy s'approcher en boitant. Ses yeux ronds étaient pleins de gravité.
« Peux-tu me montrer où tu veux aller, mon ami? Peux-tu me montrer l'endroit ?»«
L'endroit ?» Roland s'était tellement concentré sur le camp qu'il avait à peine pensé au « où ». Et ses souvenirs de la route de Lovell sur laquelle ils avaient roulé étaient plutôt succincts. Eddie conduisait la voiture de John Cullum et Roland était profondément absorbé par ses propres pensées, focalisé sur ce qu'il allait dire au bonhomme pour le convaincre de les aider.
« Ted, t'a-t-il montré un endroit avant que tu l'envoies là-bas »
demanda-t-il à Chimmy.
« Si fait, c'est ce qu'il a fait. Seulement, il ne savait pas qu'il était en train de me le montrer. C'était une image bébé. Je ne sais pas comment te dire exactement. Stupide tête, pleine de toiles d'araignée. »
Chimmy serra le poing et se donna un coup entre les yeux. Roland arrêta la main de Chimmy avant qu'il pût se frapper une nouvelle fois et lui déroula les doigts. Il fit cela avec une douceur déconcertante.
« Non, Chimmy, je crois comprendre. Tu as trouvé une pensée, un souvenir datant de quand il était petit garçon. »
Entre-temps, Ted s'était approché.
« Bien sûr, c'est ça. » dit-il. « Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas frappé plus tôt. C'était trop simple, peut-être. J'ai grandi à Milford, et l'endroit où j'ai atterri en 1960 était à deux pas en termes de distance géographique. Chimmy a dû trouver un souvenir de promenade en carriole, ou peut-être une virée par le tram de Hartford pour voir mon oncle Jim et ma tante Molly à Bridgeport. » Quelque chose dans mon subconscient. »
Il secoua la tête.
Je savais bien que l'endroit où j'ai atterri me semblait familier, mais bien sûr, c'était des années plus tard. Il n'y avait pas la mérite quand j'étais jeune.
Est-ce que tu peux me montrer une image comme celle-là?
Demanda Chimmy à Roland d'une voix pleine d'espoir. Roland repensa une fois de plus à l'endroit où il s'était garé sur la route 7, à Lovell, l'endroit où il avait fait sortir Chevin de Shiven des bois, mais il n'avait aucune vision claire. Pas de repère dans le décor qui distingue cet endroit-là d'un autre, rien qui lui revint en mémoire en tout cas. Une autre idée lui traversa l'esprit, une idée en rapport avec Eddie.
« Chimmy. »
Si fait, Roland de Gilead, Will Dearborn qui fut. »
Roland tendit les mains et les plaça de chaque côté du crâne de Chimmy.
Ferme les yeux, Chimmy, fils de Stanley.
Chimmy s'exécuta, puis ses mains vinrent agripper la tête de Roland. Le pistolero ferma les yeux à son tour.
Dis ce que je vois, Chimmy, dit-il. Dis où nous devrions aller. « Vois-le très bien. »
Et c'est ce que fit Chimmy.
18.
Alors qu'il se tenait là, Roland en train de projeter et Chimmy en train de visualiser, Danny Rostov appela doucement Jake. Quand il se trouva près d'elle, elle hésita, soudain peu sûre de ce qu'elle allait dire ou faire. Il commença à l'interroger, mais elle le fit taire d'un baiser. Elle avait les lèvres d'une douceur à peine croyable.
« C'est pour te souhaiter bonne chance, » dit-elle.
Et lorsqu'elle vit son air ébahi et mesura la puissance de ce qu'elle venait de faire, sa timidité s'effaça.
Elle lui passa les bras autour du cou, son Winnie l'ourson à la main. Jake en sentit la matière molle contre son dos et l'embrassa de nouveau. Il sentit la pression de ses seins durs et minuscules, et il devait se rappeler cette sensation jusqu'à la fin de sa vie. Il se la rappellerait, elle, jusqu'à la fin de sa vie, comme si c'était la veille.
« Et ça, c'est pour moi. »
Elle se retira aux côtés de Ted Brottigan, les yeux baissés, les joues brûlantes, avant qu'il ait pu dire un mot. Non pas qu'il s'en sentît capable, même si sa vie en avait dépendu. Il avait la gorge bien trop serrée. Ted le regarda et sourit.
« On juge tous les suivants d'après le premier. Tu peux me croire, je sais de quoi je parle. »
Jake était toujours dans l'incapacité de dire quoi que ce soit. Elle aurait aussi bien pu lui avoir balancé un coup de poing dans la tête au lieu de l'embrasser sur la bouche. Le choc était comparable. 19. Un quart d'heure plus tard, ce sont quatre hommes, une fille, un bafou bafouilleux et un garçon hébété, stupéfait et très fatigué, qui se tenaient dans l'allée. Ils semblaient n'avoir cette immense pelouse que pour eux. Le reste des briseurs avait totalement disparu. De là où ils se trouvaient, Jake voyait la fenêtre éclairée du premier étage du dortoir Corbett, là où Susanna préparait son homme. Le tonnerre grondait. Ted parlait de nouveau, comme il l'avait fait dans ce placard de la gare de Tonfoudre, avec la veste rouge, quand la mort d'Eddie était encore impensable.
« Joignez les mains et concentrez-vous. »
Jake tendit la main vers celle de Danny Rostov, mais Dinky secoua la tête avec un petit sourire. « Tu pourras peut-être lui prendre la main un autre jour, héros, mais pour l'instant tu es le dindon de la farce, tu te places au milieu, et ton Dean est le deuxième. »«
Donnez-vous les mains, » fit Chimmy.
Il y avait dans sa voix des accents d'autorité calme que Jake ne lui avait jamais entendus.
« Ça aidera. »
Jake cala ôté dans sa chemise.
« Roland, est-ce que tu as pu montrer à Chimmy ?»«
Regarde, »
répondit le pistolero en lui prenant les mains, tandis que les autres formaient un cercle serré autour d'eux.
« Regarde, je pense que tu verras. »
Une couture scintillante apparut dans les ténèbres, dissimulant Chimmy et Ted à la vue de Jake. Pendant une seconde, elle tremblota et s'obscurcit, et Jake crut qu'elle allait disparaître. Puis la balafre se remit à scintiller et s'élargit.
Très faiblement, comme on entend lorsqu'on est sous l'eau.
Il entendit le bruit d'une voiture ou d'un camion qui passait dans cet autre monde. Il vit un immeuble avec un petit parking asphalté devant. Trois voitures et un pick-up y étaient garés.
« La lumière du jour, »
se dit-il consterné. Car si le temps ne revenait pas en arrière dans le monde clé, ça signifiait que le temps avait bel et bien eu un raté, qu'il avait glissé. S'ils étaient bien dans le monde clé, alors on était le samedi 19 juin de l'année.
« Vite !»
hurla Ted de l'autre côté de ce trou miroitant dans la toile du réel.
« Si vous devez y aller, allez-y maintenant. Il va s'évanouir. Si vous y allez... »
Roland tira brusquement Jake vers l'avant, faisant rebondir son sac sur son dos dans le mouvement.
« Attends !»
eut envie de crier Jake.
« J'ai oublié mes affaires !»
Mais c'était trop tard. Il sentit comme des mains énormes lui écrasant la poitrine et tout l'air qui jaillissait subitement hors de ses poumons. Il se dit
« Changement de pression ».
Il eut alors l'impression de tomber vers le haut, puis il roula sur le revêtement du parking, son ombre accrochée à ses talons, à loucher et à grimacer, se demandant dans un recoin reculé de son esprit depuis combien de temps ses yeux n'avaient plus été exposés à l'éclat naturel de cette bonne vieille lumière du jour. Pas depuis qu'ils avaient pénétré dans la grotte de la porte, à la poursuite de Susanna peut-être. Il entendit très faiblement quelqu'un. La fille qui l'avait embrassée, lui sembla-t-il, lui lançait un « bonne chance », puis tout disparut. Tonfoudre disparut, et le devartois et les ténèbres. Il se trouvait côté Amérique, sur le parking où la mémoire de Roland et le pouvoir de chimie, amplifié par celui des quatre autres briseurs, les avaient conduits. C'était l'épicerie générale d'East Stoneham, où Roland et Eddie s'étaient fait prendre en embuscade par Jack Andolini. Sauf qu'à moins d'une erreur horrible, c'était 22 ans plus tôt. Là, on était le 19 juin 1999, et l'horloge dans la vitrine, c'est toujours l'heure d'un bon steak du sanglier, était écrit en rond sur le cadran, indiquait qu'il était 4h-19 de l'après-midi. Leur temps était presque écoulé.